vous le citez plusieurs fois, Arnaud Desjardins, et donc on ne pouvait pas ne pas évoquer un texte de lui justement sur cette question de la souffrance, dans lequel il pose très bien sa façon de voir les choses. Il y a ma souffrance et moi. Nous sommes deux. En refusant la souffrance, en m'écriant non devant ce qui m'arrive de douloureux, je crie plus fort que la vérité. Ma pensée amplifie ce qui est, instant après instant. Elle se débat. Non. Elle se crispe. Elle refuse de souffrir. Non. Elle en rajoute et j'entre dans un cercle vicieux. En plus de souffrir, je souffre de souffrir. Au contraire, si j'accepte mon ressenti face à ce qui est, pas plus, pas moins, je deviens un avec. Quittant la dualité, je peux entrer dans ma profondeur. Il n'y a alors plus de souffrance. Il y a un ressenti qui adhère à ce qui est. Il y a la souffrance sans moi. Il n'y a plus d'abonnés au numéro demandé. Apprenons à entrer dans la perfection du oui, oui à ce qui est, et pas à ce que je voudrais qu'il soit. Il ne s'agit pas de se blinder. Le sage enlève son armure et dit « Tirez vos flèches, je ne refuse rien. »
Oui, je trouve ça résume parfaitement bien, de manière très claire, en fait, vraiment la démarche. Donc, ce n'est pas une démarche masochiste, au contraire, parce que ma souffrance, c'est une part de moi qui souffre. Si je rejette ma douleur émotionnelle, je me rejette. Donc, par exemple, on voit ça beaucoup avec la peur. Personne n'aime avoir peur. Donc, on veut être débarrassé de la peur. Mais en rejetant la peur, je rejette celui qui a peur en moi. Donc, celui qui a peur, il reste seul. Il est rejeté. Il n'a pas mon soutien. Donc, quand au contraire je m'ouvre totalement à lui, ben d'une certaine manière c'est cet accueil qui le rassure et qui le fait fondre.
Oui, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est vrai. J'invite nos auditeurs à vous lire jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter en chemin s'ils commencent. Parce que si on s'arrête en chemin, on est quand même un peu... On peut avoir un moment d'aporie, pour le moins, sinon de gêne, parce que vous dites même des choses comme il faut accepter sa jalousie, effectivement la peur, des choses qui sont quand même a priori considérées comme de mauvaises émotions, enfin des émotions en tout cas négatives, nuisibles, surtout négatives, c'est pas ça tellement le problème, que c'est quand même, on pense que c'est nuisible à notre être spirituel, d'avoir ces sentiments, ces émotions de jalousie, de peur, de colère, de haine, voilà, toutes ces émotions extraordinairement négatives, vous invitez à une traversée de cela. Mais il faut quand même faire très attention parce que on pourrait croire que vous dites c'est comme ça, après tout ma jalousie elle est là, je suis bien avec et oui, je vais la garder, mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit.
Non, clairement. À chaque fois il y a une visée qui est d'être en adéquation avec la vie telle qu'elle est. Donc c'est sûr que tant que je suis dans un vécu émotionnel, je ne suis pas en adéquation. Si je suis jaloux, c'est que je pense que, j'imagine que, j'estime que l'autre est à moi, que l'autre n'a pas le droit de me faire ça, etc. Donc bien sûr, il y a toute une série de choses qui sont illusoires, parce qu'en fait non, l'autre ne m'appartient pas, je n'ai aucun droit sur lui, mais de me faire la morale en disant « ta jalousie, c'est mal », ça va être absolument inefficace, ça ne va pas m'aider. Oui, je suis jaloux, c'est un fait. Et donc, de plonger vraiment dans la jalousie a tendance à se manifester par des comportements, des réactions. Et donc, effectivement, ça n'a pas de fin. Donc, ce n'est pas du tout cet aspect-là que j'encourage. C'est le fait de rentrer dans l'expérience de qu'est-ce que c'est être jaloux, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, ça brûle le cœur, ça tord le ventre, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est une douleur intérieure. L'enfant qui est jaloux de son petit frère, il va le pincer, il va chercher à lui faire du mal, il va faire des crises pour appeler l'attention, mais finalement il n'exprime pas sa douleur. Et donc au fond de la jalousie, il y a de la douleur. Si on rentre vraiment dedans, on va expérimenter cette douleur et là on peut se rendre libre. Sinon, de se moraliser... Pour moi, ça n'a jamais libéré personne. Bon, ça peut modérer, tempérer, mais il suffit qu'il y ait un élément qui vienne restimuler et cette modération va être balayée, en fait.
Oui, mais on peut avoir effectivement la conscience qu'il est nécessaire de traverser sa douleur. En même temps, il faut aussi avoir la conviction qu'on veut dépasser quelque chose. Donc il faut quand même un objectif, il faut quand même des valeurs, il faut quand même, avoir une conscience de ce qu'on aimerait être plus idéalement, en tout cas, faut avoir le désir de se transformer, de progresser.
Absolument. Ce que vous dites est fondamental. Et la première question que Swami Prajnapad posait à ses élèves, c'était « Que voulez-vous ?» Pas au nom d'un idéal, mais « Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous ?» Et là aussi, cette question est tellement fondamentale pour ne pas se mentir. Parce qu'on peut dire « Oui, je veux la paix, je veux l'amour, etc. » Mais est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Parce que vouloir quelque chose, c'est aussi être prêt, comme vous le soulignez, à payer le prix, à s'impliquer, à se remettre en question. Donc, est-ce que je le veux au point de toute la démarche que ça va me demander pour y arriver ? Donc, ce questionnement, il doit... Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je cherche ? À quoi je veux arriver ? Il doit nous accompagner tout le temps et être comme notre boussole, en fait. Parce que face à une situation de la vie qui nous fait mal, moi, ce qui me vient, c'est ouais, l'autre, il va me le payer, il va voir ce qu'il va voir, etc. Mais c'est là que je me demande, mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux effectivement soulager ta haine, par exemple, et faire payer à l'autre ? Est-ce que c'est ça que tu cherches ? Bon, mais là, j'ai à voir, qu'est-ce que je cherche moi ? Admettons, je cherche la paix. Est-ce que je vais être réellement en paix si je détruis l'autre ? Au-delà de la culpabilité, je ne parle même pas de la culpabilité, mais vraiment, est-ce que je vais me sentir profondément bien ? Je vais constater que si je cherche vraiment, moi, pas avec des réponses toutes faites, pas des réponses morales, mais vraiment dans mon cœur, je vais m'apercevoir non que haïr quelqu'un m'empêche d'être en paix et d'alimenter la haine. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en paix, ça, c'est un tourment intérieur. Donc, si je veux être en paix ou si je veux être libre, il va falloir que, effectivement, je dépasse ma réaction. Mais donc, ce n'est pas facile. Quand on a de la haine et qu'on en veut à mort à quelqu'un, ce n'est pas rien, en fait, de dépasser ça.
Oui, et là, on rejoint toute la grande tradition de la connaissance de soi. Mais c'est vrai que ça met ensemble, en fait, la tradition antique, même des sages antiques de la connaissance de soi, et cette question d'exploration des émotions qui va quand même très, très loin, en effet, chez Swami Prajnapad. Donc, l'association des deux est très... je dirais que les deux sont totalement indissociables chez lui.
Oui, c'est très spécifique à sa démarche, en fait. Parce que dans certaines traditions du bouddhisme tibétain, par exemple, on va travailler sur des émotions, mais à travers des symbolismes, en fait. Alors que là, c'est vraiment en direct, si c'est la haine. Et donc, c'est là aussi où il y a une dimension tantrique chez lui. Dans le tantra, on fait totalement l'expérience des choses, y compris des poisons, entre guillemets, pour découvrir que si on en fait totalement l'expérience, justement, il y a une transformation. Et donc, si dans le bouddhisme, on parle de ces émotions comme la haine, la jalousie, etc., comme des poisons, justement, on va faire l'expérience de ces poisons pour voir que finalement, derrière toutes ces émotions, en fait, il y a un amour qui souffre et qu'elles sont le chemin pour atteindre cet amour qui souffre. Et que si on les rejette, finalement, ça fait barrage, on ne peut pas accéder à l'amour.
Alors justement, il y a un texte que j'aime bien de Swami Prajnapad qui est dans... En fait, c'est Entretien avec Swami Prajnapad fait par Srinivasan. Et d'ailleurs, c'est avec une présentation d'Arnaud Desjardins. C'est publié aux éditions de l'Originel. Et là, c'est le début d'un chapitre qui s'intitule « La quête du soi ». Et il y a un petit extrait des Upanishads. Ça commence par un extrait des Upanishads... Je ne résisterai pas au plaisir d'intégrer évidemment ces quelques vers des Upanishads avant de lire donc le début de ce chapitre. Celui qui croit ne pas savoir, sait. Celui qui croit savoir, ne sait pas. Ceux qui croient avoir compris n'ont pas compris, et ceux qui croient n'avoir pas compris ont compris. À quoi bon chercher ce que l'on est ? C'est pour l'appliquer à sa vie. Sinon, à quoi cela sert-il ? Au lieu de rechercher ce que vous êtes, laissez plutôt ce que vous êtes s'exprimer à travers l'action. Si seulement vous prenez soin du présent et agissez maintenant intelligemment, alors le reste prendra soin de lui-même. Il n'est pas nécessaire de penser ou de faire des plans. Cela crée une division. Soyez occupé par le présent et mettez-y le meilleur de vous-même. Appliquez tout votre esprit et tout votre corps à la tâche que vous êtes en train de faire. Si vous marchez, les yeux doivent regarder devant et de chaque côté, pour voir si le chemin est libre. Les mains bougent pour maintenir l'équilibre. La pensée ne doit pas vagabonder et courir après les choses inutiles. La pensée doit être attelée à cette même action. Alors la marche sera parfaite et le but ou l'objectif sera atteint. Si par contre, les jambes marchent, pendant que les yeux regardent le paysage et que la pensée vagabonde vers le passé et l'avenir, la marche peut se terminer douloureusement. Il peut vous arriver un accident, vous pouvez tomber dans un fossé. Les membres, les yeux et la pensée doivent agir à l'unisson. Bien sûr, on doit se connaître. Mais comment ? Ce que vous êtes doit s'exprimer. Observez votre expression et vous vous connaîtrez. Car se connaître soi-même, c'est tout connaître. Mais le questionneur ne trouve pas facile le retour à soi. Il éprouve une déception. Il est désemparé. Il ne sait pas comment faire. La meilleure façon de voir qui l'on est, c'est d'observer ses actions. Et c'est aussi la plus simple, parce que l'action se déroule devant vous. Alors, vous pouvez vous connaître.
Dans la citation au départ des Upanishads, il est question de savoir ou de ne pas savoir. Et effectivement, la plupart d'entre nous, des gens, vont dire « moi je sais ». Je suis comme ça, un tel, mon conjoint, mes enfants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Nous prétendons savoir, et notamment nous prétendons savoir qui nous sommes. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça, parce que mes parents, parce que. Et en fait, ce savoir recouvre une grande ignorance. En réalité, nous ne savons pas qui nous sommes. Et justement, c'est toute la démarche et une attitude très humble. Voir, effectivement, je ne sais rien et tout ce que je sais, ce sont mes a priori, mes jugements, et il faut que je laisse ça de côté. Et je vais essayer d'observer, parce que Swami Prajnanapad était un scientifique au départ, un physicien, et donc il a gardé dans son approche et son accompagnement de ses élèves cette rigueur de la démarche scientifique expérimentale. Voilà, j'expérimente, j'observe ce qui se passe et je ne tire des conclusions que de ce que j'ai moi-même expérimenté. Donc, je ne pars pas d'un présupposé, oh, mais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Non, je ne sais pas qui je suis. Donc, ce point-là est fondamental dans la connaissance de soi, c'est cette humilité de voir, je suis un mystère pour moi-même en fait.
Et donc, il faut suspendre son jugement non seulement des autres, mais même de soi-même.
Mais en fait, surtout de soi-même. Je le vois avec la thérapie. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de thérapie. Des années de psychanalyse, de stages, de développement personnel. Et elles peuvent tout expliquer de leur comportement. Chaque fois qu'elles ont une réaction, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Elles ne sont pas heureuses. Donc, non, il y a une méconnaissance quelque part. Elles ne sont pas complètement reliées à ce qu'elles sont. Donc, ce n'est pas que mentalement, on puisse expliquer toutes nos réactions, qu'il y ait une connaissance de soi. La connaissance de soi, à mon sens, c'est quelque chose qui va au-delà des mots, qui est beaucoup plus intuitif et qui, au bout d'un moment, débouche sur du silence. C'est-à-dire que là, ça devient indescriptible, indéfinissable.
Vous venez de parler du bonheur. Est-ce que vous diriez que le fait d'être heureux, c'est finalement le but recherché de tout ce travail thérapeutique et spirituel?
Le but, il n'est pas unique pour tous. Il va se formuler différemment pour chacun. Donc, l'un va mettre le mot bonheur, l'autre va mettre le mot amour, un troisième va dire la liberté, la paix. Donc, on peut dire éventuellement qu'il y a le bonheur derrière, mais je trouve que c'est là aussi important de vraiment se questionner, de voir, mais moi, vraiment moi, qu'est-ce que je cherche? Bon, parce que pour certains, ce qui va être le plus précieux, c'est la liberté. Et parfois, ils auront à payer un tribut très lourd. Très lourd pour vivre cette liberté. Donc, on ne peut pas dire, vu de l'extérieur, ça a l'air très cool. Bon, mais donc, c'est qu'il y a une joie. Plutôt que bonheur, moi, je dirais joie.
Encore une conception très spinoziste, je le fais remarquer.
Oui, c'est
la joie et le révélateur, effectivement, du fait qu'on est en adéquation avec notre être profond.
C'est vrai que c'est la ligne directrice, en fait, de tout ce que vous dites. S'il y avait un fil rouge, ce serait celui-là, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'être en adéquation avec soi-même. Alors, vous avez dit que pour chacun, c'est différent, mais en même temps, il y a un socle commun. Le soi-même humain correspond à un socle commun. Et ce que vous ne définissez pas vraiment, la frontière que vous ne définissez pas vraiment, c'est comment interagissent, si jamais ils sont différents, elles sont différentes, la psyché et l'âme. Parce que vous passez des émotions au spirituel, à la dimension spirituelle, de la dimension spirituelle aux émotions, sans jamais vraiment nous dire dans quelle zone on se trouve, de quoi vous nous parlez exactement.
Vous dites la psyché et l'âme, pour moi...
La psyché et l'esprit.
Oui, voilà, l'âme, c'est la psyché en grec. Donc, voilà, la psyché
et l'esprit,
et l'esprit à ce moment-là. Effectivement, le monde de la psyché, c'est le monde des images mentales, c'est le monde des désirs, c'est le monde des émotions. C'est tout ce qui est changeant en nous, en fait, tous les états. Donc, justement, c'est ça la beauté de la psyché, c'est que c'est un feu d'artifice de couleurs, des plus sombres aux plus lumineuses, qui peuvent nous traverser. Alors que l'esprit, justement, on pourrait dire, n'a pas de couleur. L'esprit, ou la conscience, en fait, va éclairer la psyché et justement mettre en lumière ces couleurs. Donc, pour moi, là, on rentre dans un domaine qui est plus délicat à dire avec des mots, mais que dans le domaine de l'esprit ou de la conscience, on va vers le silence. Et justement, on va au-delà des formes. Le monde de la psyché, c'est le monde des formes, des pensées, des représentations. Donc, là, on va se diriger peu à peu vers un monde qui est sans forme, qui est indéfinissable. Donc, on part de la forme. Y a une forme, une situation, un vécu émotionnel. C'est bien une forme particulière à un moment donné qui évolue au cours du temps. Et si, justement, on laisse cette forme grandir, se déployer, eh bien, on va constater qu'au bout d'un moment, elle se dissout et que là, on rentre dans le sans-forme, on rentre dans le silence, on rentre dans quelque chose où il n'y a plus rien à dire, en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour dire les choses un tout petit peu autrement, aussi de manière orientale, que la psyché, on est encore dans le monde du mental et de l'ego, alors que l'esprit nous conduit vers une non-dualité?
Oui, oui, absolument. Oui.
Mais développez un peu cette idée-là, parce qu'elle est majeure, et vous l'évoquez dans votre livre aussi, qu'il y a progressivement, on fait l'expérience d'un lâcher de l'ego dans ce travail sur soi.
Oui, donc la psyché, elle est complètement gouvernée par ce qui l'attire et la repousse. Donc c'est ça qui l'anime, en fait, de chercher à aller vers ce qui l'attire et de s'écarter et de fuir ce qui l'inquiète ou ce qui la repousse. Donc forcément, ça va conditionner tout notre rapport à la vie, puisque à chaque fois, j'essaye de pas être dans le courant, le plein courant de la vie, mais de naviguer au mieux de mes intérêts, ce qui est humainement complètement légitime et compréhensible. Mais qui en même temps, à certains moments, du fait de ma résistance, je vais être en travers du courant de la vie, voire à contre-courant de la vie, et donc créer des turbulences autour de moi qui vont être majeures et qui vont être très perturbatrices. Donc, c'est là où la psyché, la dimension dans la psyché de l'ego intervient très fortement, l'ego et le couple ego-mental. Donc Swami Prajnanapad définissait le mental comme la fonction de la pensée qui veut autre chose que ce qui est, la chose que je voudrais à la place de celle qui est, qui ne me convient pas. Et l'ego, il se caractérise par j'aime, je n'aime pas. Il y a ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et moi, je veux ce que j'aime et je ne veux pas ce que je n'aime pas. Donc, les deux sont indissociables parce qu'effectivement, dès qu'il se produit ce que je n'aime pas, effectivement, il va y avoir des émotions, il va y avoir des tas de phénomènes psychiques. Donc, effectivement, on va constater que tant qu'on est dans ce domaine régi par l'ego et le mental, on va être tributaire de l'extérieur. L'extérieur va commander mon état d'humeur. Si l'extérieur va dans mon sens, je suis content. Si l'extérieur ne va pas dans mon sens, l'extérieur ou tout ce que je considère comme autre, même à l'intérieur de moi, je vais être mal. Donc c'est là où effectivement il y a un travail sur l'ego, de voir, certes, c'est humain de souhaiter que les choses se passent à mon idée et moi je fais mon possible pour, mais en même temps de savoir que si à un moment je m'agrippe, je me mets en travers du courant, là, ça va se retourner contre moi. Et au lieu de servir cet intérêt intelligemment, je vais même moi-même me saborder, en fait. Et que j'ai intérêt, comme le disait dans ce texte de Swami Prajnanpad, ben oui, d'écouter, en fait, ce qui émerge et une intelligence plus profonde. L'ego et le mental ne sont pas très malins. Ils ont toujours, même si on a un grand QI, ils ont toujours les mêmes stratégies, veulent toujours arriver à leur fin par les mêmes moyens répétitifs, sans tenir compte des déconvenues et des échecs, et recommencent.
Disons quand même que j'apporterai un bémol. Je dirais que le mental, notamment, il a une fonction de nous protéger. C'est-à-dire qu'on a mis en place notre mental face aux souffrances de la petite enfance, et parce que maman n'était pas absolument dans l'amour tout le temps et papa n'était pas toujours protecteur, bah le mental nous a donné des bonnes raisons pour ça et on est parti dans nos névroses à cause de ça. Donc le mental, il a une fonction protectrice. Sauf qu'à un moment donné, comme vous dites, ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir sortir des mensonges du mental qui nous ont protégés pendant un temps, qui nous ont permis de survivre pour aller plus loin.
C'est exactement ça. Ce sont des protections de survie. Mais la survie n'est pas la vie. Donc, c'est le Bouddha qui disait que quand on traverse une rivière avec un radeau, on n'a pas besoin, une fois qu'on a traversé la rivière, de porter le radeau sur son dos. Mais c'est ce que nous faisons avec nos mécanismes de survie venus, comme vous le dites, de l'enfance. Donc, c'est vrai qu'il y a un ménage à faire de tout ça parce que ça nous coupe de la vie, en fait. Ce ne sont plus des protections, ce sont des armures à ce moment-là. Bhagavati Stuti Pratah Smarami Sarvadindu Karuchalabham Sadaratnavan Makara Kundala Harabhusham Pratah Smarami Deva Smarami.